Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 20 décembre 2018. On est bien excités.
5 dodo.
Oui! C'est Marie Lalonde qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Kiroak.
Bonjour Marie.
Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour. Et Maurice Bolduc en régie.
Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez ce matin?
Alors, en première partie, Marie,
oui, en première partie, évidemment.
Un article d'abord. Alors, c'est un article qui présente comment des chercheurs ont réussi à décrypter des tablettes sumériennes.
Sumériennes.
Alors là, ça fait longtemps, quelque chose comme 2 Jésus-Christ.
Oula.
D'accord.
OK. Mm-hmm. Décrypter.
Décrypter. Oui. Je vais vous raconter ça, vous allez voir, c'est intéressant et amusant.
Oui, parce qu'il n'y a plus vraiment de traducteurs, là, c'est ça.
Oui, pas vraiment.
Yvan, et toi?
Moi, 2 articles en première partie. Dans le premier cas, je vous parle évidemment beaucoup d'activités physiques, de sortir dehors, mais cette fois-ci, je vous parle de sentiers où on peut sortir dehors, mais avec nos chiens. Bien, pas avec mon chien, j'en ai pas, mais avec des chiens.
D'accord.
C'est accepté, c'est souhaité, on invite les gens.
C'est l'endroit pour ça.
Oui, c'est ça.
OK, intéressant.
Et dans un deuxième cas, on change complètement de pays. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Jonathan Béroy.
Oh oui, je l'aime bien, lui.
Celui qui visite le monde à vélo. Mm-hmm. Alors, il est rendu en Corée du Sud.
Du Sud.
Oui, oui.
Qui est plus accessible, oui.
Il nous raconte des choses insolites.
Bon, et moi, de mon côté, je vous présente ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire connaître aux jeunes pour éviter que nous soyons et qu'ils soient manipulés par la technologie.
Ah, c'est intéressant.
Mm-hmm. Wow. Alors, c'est parti, on y va. Alors, Yvan, on commence avec toi, des sentiers pour randonner avec notre chien, si on a un chien.
Si on a un chien cet hiver, ce qui ne nous arrivera pas.
Non.
Alors, c'est écrit par Joanie Évrard. Et Joanie, elle écrit son prénom J-O-A-N-I-E. Voilà. Sur le site du magazine Espace, le 10 décembre 2018. Alors, Pitou est jaloux quand vous partez randonner sans lui. Voici quelques destinations qui accueillent avec plaisir les marcheurs accompagnés de leurs chiens dans les sentiers. Alors, on commence par Charlevoix, la région de Charlevoix. Ça s'appelle le Mont du Dôme, dans la ZEC des Martres. Bien des gens connaissent le populaire sentier du Mont du Lac des Cygnes, ou le balai. Enfin, sans savoir qu'un petit trésor pédestre se cache à environ 2 km de là. Le Mont du Dôme se trouve en effet sur le territoire de la ZEC des Martres, et il est possible d'atteindre son point culminant en quelques kilomètres de marche à peine. Juste avant de rejoindre celui-ci, un cap rocheux permet d'admirer l'impressionnant panorama composé des autres sommets charlevoisiens. Bref, ce petit coin enchanteur saura plaire à tous, même à Pitou. Ensuite, on s'en va du côté de Chaudière-Appalaches, au mont Sugarloaf. Sugarloaf? Oui. Que plusieurs skieurs connaissent.
Sugar loaf.
Loaf.
Ah oui,
comme un pain de sucre. Comme un pain de sucre.
Oui, c'est ça. Il manquait le petit G était escamoté. Hein.
Ça va, Sugar loaf?
Yes, we know, sugar loaf.
Le parc des Appalaches gagne en popularité auprès des maîtres et de leurs fidèles compagnons. Ceux-ci sont les bienvenus sur le réseau de 140 km de sentiers du parc, quand même, et même en refuge. Pour une courte randonnée d'une journée, la piste du garde-feu se rend directement au sommet dénudé du mont Sugarloaf. De là-haut, on observe des cours d'eau glacés et des collines à perte de vue. Sinon, de nombreux parcours de plusieurs jours sont également possibles. Et maintenant, on s'en va dans le centre du Québec. Ça s'appelle le secteur de la forêt ancienne, dans le parc régional des Grandes Coulées. Ce secteur du parc régional des Grandes Coulées comprend 10 km de sentiers où Fido pourra se dégourdir les pattes. En plus de côtoyer 2 rivières, la forêt ancienne est composée de divers types de végétation. Pour les chercheurs de trésors, plusieurs géocaches, j'ai déjà lu un article là-dessus, ont aussi été dissimulés sur le territoire. Un refuge se situe enfin à mi-chemin sur les sentiers, donnant la possibilité aux randonneurs de se reposer et de se réchauffer avant de retourner dehors. Dans la région de Québec, il y a un endroit qui s'appelle la montagne à deux têtes. C'est une petite montée progressive qui mène à deux différents points de vue sur la montagne à deux têtes. Le premier se tourne vers l'est et permet d'admirer la vallée Labranche, traversée par la rivière de l'Isle. Le deuxième offre, quant à lui, une magnifique vue sur la vallée de la Montmorency et sur la ville de Québec. Et ce trajet de 9 km vous permettra de sortir avec votre ami canin sans consacrer trop d'efforts. Dans Lanaudière, qu'est-ce qu'on connaît dans Lanaudière? C'est la montagne noire. C'est une montagne qui est non seulement intéressante pour ses paysages, mais également pour son aspect historique. En effet, le site du Liberator abrite les vestiges de cet avion militaire qui s'y est écrasé en 1943. D'autre part, la montagne Noire est la plus haute de Saint-Donat, avec une altitude de 875 mètres, et les chiens en laisse sont acceptés sur les sentiers. Le point de vue qui se dévoile à partir du populaire refuge du Mésanger est à couper le souffle en dévoilant la région et le lac Archambault sous leur meilleur jour, pardon. Et finalement, je vous arrête dans les Laurentides, au parc de la rivière Doncaster. Le parc de la rivière Doncaster est un lieu rassembleur pour tous les amateurs de marche nordique et de canirando.
Oh là
C'est
là,
beau, hein? De
oui.
canirando dans les Laurentides. Ce petit lieu paisible, aménagé près d'un ancien barrage, permet à toute la famille et aux toutous randonneurs de se promener au cœur de la forêt tout en profitant d'un réseau de 10 km de sentiers. Un point de vue sur la ville de Sainte-Adèle est aussi accessible par la piste numéro 9. Et il y a deux autres sentiers, si vous voulez regarder. C'est dans l'article 8 sentiers pour randonner avec son chien cet hiver de Joanie Évrard dans le site magazine Espace du 10 décembre
Oui,
2018.
ça donne presque envie d'avoir un chien.
On n'est pas obligé d'avoir un chien
Et non,
pour
puis y aller quand même.
y aller.
Merci, Yvan. Alors, plus de secrets après la lecture de ce texte sur les Sumériens?
Oui, ben, enfin, sur une certaine tablette. En tout cas, c'est un article de Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de septembre 2018. Ça s'intitule « Une tablette sumérienne percée à jour ».
C'est une tablette électronique, on parle. Hein?
Attends, là. Transportons-nous, justement, en Mésopotamie, des milliers d'années avant, justement, l'invention de nos fichiers informatiques sécurisés. Alors, il y avait certains documents administratifs et juridiques qui devaient, même à cette époque-là, rester confidentiels. Alors, comment éviter que des signes cunéiformes, c'est l'écriture sumérienne, qui est la plus ancienne écriture, en fait, qui a été inventée dès 3 400 ans avant Jésus-Christ à Sumer. Donc, ça date pas d'hier. Alors, parce que c'était sur des tablettes en argile et pour effacer, il suffisait de mettre un peu d'eau sur la tablette et ça y était, tous les incisions pouvaient disparaître. Alors, la solution, on l'a trouvée vers 2500 ans avant notre ère en les entourant d'une sorte de coque d'argile supplémentaire. Alors, c'est comme si on remettait autour une enveloppe qui unifiait, qui nous empêchait donc d'avoir accès à l'information. À travers les âges, bien sûr, on a retrouvé des tablettes, mais ces tablettes gardent leurs secrets. Êtes-vous
Ouais,
curieux?
ben tout à fait.
Ben, il y a des chercheurs qui étaient curieux aussi.
Ouais.
Comment arriver à lire ça? Alors, presque en même temps, des chercheurs de l'Institut néerlandais pour le Proche-Orient de Leeds, aux Pays-Bas, ils avaient, eux, en main 3 000 tablettes,
Quand
quand même.
même.
Et une chercheure à quelques kilomètres de là, de Leyde, à l'Université de Delft, qui est une experte française en géomatériaux, se posait les mêmes questions. Notre chercheur s'est dit peut-être qu'avec un tomodensitomètre, on pourrait lire, pénétrer enfin à travers la matière et de distinguer les deux éléments différents fabriqués dans le même matériau, donc l'argile de la tablette et celle de la protection. Alors, de ni un ni deux, elle s'est équipée d'un micro-tomographe à rayon X qui a été donc utilisé dans son laboratoire. Cet outil est 8 fois plus précis que les meilleurs CT scans de nos, que l'on retrouve dans les hôpitaux. Résultat, ça a été des coupes en rayons X extrêmement fines qui ont été capables de percer virtuellement sans détruire rien de la tablette. Alors, ils ont balayé la tablette, écoutez bien, ils ont fait 1440 images de la tablette. Ils ne disent pas de quelle dimension était la tablette. Bon, on peut imaginer peut-être un petit peu plus grand qu'un écran de mini-ordinateur. Et c'est comme des radiographies. Et ensuite, ils ont fait des tranches de toutes ces radiographies pour reconstituer, en fait, la structure première de la tablette pour pouvoir accéder aux caractères. C'est ainsi qu'ont été reconstruits très finement en 3 dimensions les creux, parce que l'écriture cunéiforme, c'est des creux, constituant l'écriture. Alors, elle a donc tenté de répondre à la question comment aussi les Mésopotamiens procédaient-ils pour couvrir l'enveloppe, la tablette de l'enveloppe, parce que c'est quand même vivant tout ça, là. Quand on prépare la tablette une première fois, on devrait la faire sécher au soleil. On n'avait pas le temps, donc il fallait agir rapidement. Se sont rendus compte qu'il y avait une fine particule de tissu qui était déposée sur la tablette avant de recouvrir de l'argile avec
Comme
la
un
colle.
protecteur,
C'est ça, exactement. Alors, toujours passionnant ces choses-là, n'est-ce pas? Comme un gaz de laine, en fait. Mais que racontait cette première
Oui,
tablette?
c'est ça.
C'est ça.
Ah, vous êtes
C'est quoi le
curieux?
message,
C'est le compte
finalement?
rendu de la partie de soccer de la veille.
Pas du tout. C'était une livraison de 15 280 litres de sésame. Et il y avait deux, en fait, deux étapes dans la lecture. La lecture globale, 15 000, comme je disais, litres, et en sous-titres, en sous-information, on parlait de 11 050 litres livrés une première fois et 4 230 litres pour une seconde livraison. Alors, tout ça pour vous dire que les Sumériens savaient lire, savaient écrire, mais ils savaient aussi compter.
Oui, c'est ça.
Et voilà, peut-être que les 3 000 autres tablettes seront décryptées pour nous dire ce qu'elles contenaient toutes.
Ah, c'est
Donc, le
formidable.
concept
Donc, le concept de litre
existait,
existait.
semble-t-il. Mais oui, c'est fascinant ce qu'ils savaient ces gens. Alors, c'est un article de Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de septembre 2018.
Merci beaucoup.
C'était 22 h à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc. Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longea la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent. Puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter saint, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi, bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
Joyeux Noël par Barbara.
Et se faire souhaiter Joyeux Noël par Barbara. Merci Maurice, quel beau choix. Alors parlons techno. Est-ce qu'on est manipulé par les technos? C'est une bonne question. C'est la question que se pose Alexandre Vigneault. Et il se posait cette question-là le 16 décembre dernier dans la presse. C'est pas facile donc de convaincre son enfant de mettre son téléphone ou sa console de côté. Et c'est pas un hasard. Mm-hmm. Médias sociaux et jeux vidéo utilisent des outils de persuasion à la fine pointe de la psychologie, une puissance invisible qui suscite l'inquiétude. Alors, comment limiter l'usage que son ado fait de sa tablette électronique alors que c'est son principal outil de travail pour l'école, par exemple? La compétition entre la vie réelle et la vie virtuelle est de plus en plus féroce. Et c'est le psychologue Jean-Michel Pelletier qui constate ceci. Et si ce combat prend une telle ampleur, ce n'est pas seulement parce que ces technologies sont pratiques et souvent ludiques. C'est que les concepteurs d'applications numériques et de jeux vidéo usent de stratégies raffinées pour garder leurs utilisateurs actifs ou les inciter à revenir sur leur plateforme. La pointe visible de l'iceberg, ce sont les notifications qu'on reçoit à longueur de journée sur notre téléphone. Tu peux rire, Yvan. Mm-hmm. Il y a tout ce qu'on se voit.
Je sens là, qu'il y a des messages.
Oui, il y a des messages constants, oui.
C'est pas juste les notifications, c'est le son.
C'est
qui
le
vient
son
avec.
Bing. Ah, alors, d'accord. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et évidemment, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on ne connaît pas l'algorithme de Facebook. On ne sait pas sur quoi il se base pour faire des suggestions ou déterminer ce qui apparaît dans notre fil de nouvelles. Souligne, par exemple, Jonathan Bonneau, qui, lui, est coordonnateur du laboratoire en médias sociaux numériques et ludification de l'UQAM. Ces techniques d'influence que les chercheurs en psychologie appellent le persuasive design visent à changer les comportements et les pensées des gens, comme l'indique le site du Persuasive Technology Lab de l'Université Stanford en Californie. Des spécialistes estiment que les stratégies mises de l'avant par Facebook ou Google, entre autres, exploitent les vulnérabilités des jeunes à leur insu et à celui de leurs parents. Le persuasive design, c'est pourtant pas nouveau. Par exemple, l'avertisseur sonore qui rappelle de boucler sa ceinture en voiture en découle aussi. C'est le même principe. Ah. La question, c'est pas de savoir vraiment... Alors, je recommence. La question, c'est pas vraiment les designs persuasifs qu'on utilise, mais les raisons pour lesquelles on les utilise. Est-ce que c'est pour le bien des personnes qui utilisent les technologies? Est-ce que c'est pour la communauté en général? Ou seulement pour celui du business au détriment de l'utilisateur? Proposer par une option par défaut est un exemple simple de persuasive design, puisqu'on a tendance à ne pas changer les paramètres par défaut et à ne pas faire plus qu'on nous demande de faire. Ainsi, il arrive qu'un commerçant fasse en sorte que le choix offert automatiquement au consommateur soit de payer pour que son achat arrive plus vite, même s'il se qualifie pour une livraison gratuite. Autre expérience, plutôt que de demander aux gens de cocher s'ils voulaient participer à un programme de don d'organes, ils devaient cocher pour s'en soustraire. Et ça a permis ça d'augmenter de façon importante le nombre de participants et de sauver des vies. Les outils de Facebook visent à créer un trafic monstre dans le but de vendre des publicités. Diffuser ses performances sportives en ligne, par contre, ça peut avoir un effet positif sur la motivation. La stratégie pour amener quelqu'un à prendre soin de lui est la même que celle utilisée pour l'amener à jouer aux jeux vidéo. Dans un jeu comme Fortnite, par exemple, on mise sur le sentiment de faire partie d'une tribu avec laquelle on partage aventures et conquêtes. Il n'y a rien de plus primitif et instinctif pour l'être humain. Demander à son enfant de délaisser son jeu pour aller souper, c'est ni plus ni moins exiger de lui qu'il abandonne son groupe, même s'il n'en est pas conscient au moment où il s'accroche à sa manette. Alors, comment on reprend le contrôle? D'abord, on va limiter les notifications. On peut choisir qui a le droit de nous interrompre et à quel moment on décide de faire une pause pour regarder notre téléphone. Ensuite, on pourrait désactiver la lecture automatique parce que Netflix ou YouTube, par exemple, s'arrange pour que ça soit facile, mais en fait, il nous dirige quand la lecture automatique fonctionne. Alors, on pourrait faire le choix de désactiver ça et on fait nous-mêmes le choix de continuer plutôt que de décider d'arrêter. C'est plus facile. Et aussi, on suggère de discuter avec nos enfants parce que l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que veut Facebook, Instagram et les autres. Pourquoi? Comment s'y prennent-ils? Donc, la suggestion, c'est d'expliquer aux enfants et aux adolescents le fonctionnement et les objectifs des jeux ou applications qu'ils utilisent. C'est une bonne façon de les inciter à prendre une distance critique face à ces technologies. Éduquer aux médias numériques, c'est bien plus que de dire à nos enfants de ne pas parler aux inconnus sur l'Internet. Mm-hmm. C'est plus complexe, mais c'est plus pratique. Alors voilà pour le texte d'Alexandre Vigneault qui a été publié dans la presse le 16 décembre. Alors, Yvan, en Corée.
On s'en va en Corée.
Oui.
C'est Jonathan Birois sur le site À la rencontre du bon monde qui écrit le 16 décembre 2018. Jonathan Birois visite le monde à vélo et il rencontre plein de gens. Il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il ne connaissait rien de la Corée du Sud avant de commencer à y pédaler en d'habits de ski en plein été aux éponges collées aux autos. Il a découvert une panoplie de situations uniques et je vous les raconte. J'ai déjà écrit abondamment que la Corée du Sud est un merveilleux pays pour le cyclotourisme, mais pas seulement pour les belles pistes cyclables qui se rendent d'un bout à l'autre du pays. Aussi pour la drôle de vue que sont les terrains de golf miniature. Ça mélange entre le mini-pot et un petit par 3 de golf. Le terrain prend à peine l'espace d'un champ et le jeu ne se joue qu'avec un seul bâton, l'équivalent d'un fer d'approche avec lequel on peut aussi poter. Oscillant autour d'une vingtaine de degrés dans le jour, la température à son passage en Corée était certes plus basse que le climat de sauna rencontré en Chine, mais il roulait quand même en short et chandail à manches courtes. C'est pourtant lui qui sortait du lot parmi tous les Coréens habillés en ninja. Couvert des pieds à la tête, des pantalons spandex à la cagoule, en passant par les gants, il pensait même à voir s'il croisait une femme ou un homme. Alors il a demandé à un des cyclistes à quoi servaient tous ses vêtements. Puis il s'est fait répondre « pour le soleil ».
Se protéger du soleil.
Ouais. Puis là, il répond, « Ben, vous n'avez pas chaud? » Puis là, il répond, « Oui. Alors, pourquoi vous ne mettez pas de la crème solaire? » C'est que les vêtements ne protègent pas seulement des coups de soleil, mais aussi du bronzage, cet ennemi de la beauté. En Asie, la blancheur est reine et est synonyme de beauté. Et on la protège à tout prix, même à celui de suer sous ses vêtements en faisant du sport extérieur. Autre sujet. Un peu partout au pays, en ville comme en campagne, il voyait des éponges bleues collées sur les portes des autos. En lisant un peu sur le sujet et en demandant autour de lui, il apprend que ces éponges viennent avec les autos neuves livrées au concessionnaire. Elles sont normalement enlevées, mais beaucoup de Coréens décident de les garder pour protéger leurs portes et celles des autres automobiles.
Oh, quelle belle idée!
Alors, Il peut voir dans ce geste un sentiment de bien-être collectif au pays des Hyundai et des Kia. Mais un Coréen lui dirige vers un complément d'information. Comme les éponges viennent sur les autos neuves, c'est aussi un signe que son propriétaire possède assez d'argent pour ne pas s'acheter une auto usagée. Et comme chaque demande crée un besoin, il y a des compagnies qui se sont maintenant mises à fabriquer différents modèles d'éponges que l'on peut apposer soi-même sur son auto. On n'est donc plus limité à la simple couleur bleue ou à devoir s'acheter une auto neuve. L'un des modèles les plus populaires rappelle même un peu des ailes d'ange. Et là, il complète cette partie-là en disant « Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Séoul. » Et il termine son petit article en disant « Le paysage coréen avec ses pistes cyclables coupant à travers champs et glissant d'une vallée à l'autre n'est pas sans rappeler certains airs d'Europe. Mais ce qui ressemble encore plus au vieux continent est la présence d'une église dans presque chaque village. » À sa grande surprise, il apprend que le christianisme est la religion principale de ce petit pays d'Asie orientale, avec près d'un tiers de la population qui est chrétienne. C'est le quatrième pays le plus chrétien du continent, après les Philippines, le Timor oriental et le Liban. Ses clochers, partout visibles, donnent même un petit air familier à cette lointaine contrée. Surtout qu'à ce patrimoine immobilier s'ajoutent les nombreux vergers. En pédalant dans ses collines, entouré de pommes automnales et de son cloche, il pouvait presque s'imaginer à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, c'était dans l'article de Jonathan Bérois, juste en Corée, sur le site À la rencontre du bon monde, le 16 décembre 2018.
Merci, Yvan. Alors, un petit mot d'enfant avant d'aller à la pause. La crèche, selon Suzy, qui est française, 7 ans, garderie des enfants qui sont encore trop petits pour être grands. Voilà. Revenez-nous après la pause. Bonjour, rebonjour, je vais finir par le dire. Rebienvenue au Voix de service magazine, deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on représente ou qu'on présente en deuxième partie, Monique?
Alors, un article sur les avantages de l'intelligence artificielle. Alors, on parle donc de technologie et par ailleurs en éducation, plus précisément. Et en regard de la formation à distance, le deuxième article, je vous parlerai des édulcorants. Les effets positifs, pensez-vous, édulcorants?
Je ne penserais pas, non.
On verra.
C'est mon hypothèse. Yvan?
Moi, de mon côté, vous connaissez Gérard Bouchard?
Le Gérard Bouchard,
oui. L'historien.
Le frère de Lucien.
Oui. Il va au gym, lui.
Ah bon?
Mais c'est pas pour ça que je vous raconte ça. C'est que son voisin a une histoire particulière. Le voisin de vélo de stationnaire de Gérard Bouchard.
Bon, OK.
C'est Gérard Bouchard qui nous le raconte.
Évidemment. D'accord, évidemment. Et moi, je vous propose des activités à faire avec les enfants à Montréal pendant le temps des fêtes. Parce que c'est bientôt les vacances.
Oui, puis on a les enfants longtemps.
On part ça. Alors, Monique, on va essayer de se convaincre que l'intelligence artificielle, ça a du bon en éducation.
C'est intelligent.
Ah oui.
C'est ça. Alors, c'est un texte de Thierry Carcenti, professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie. Mm-hmm. C'est publié dans le journal Forum U2M Nouvelles du 29 novembre dernier. Alors, on le sait, 2018, impossible de ne pas parler des nouvelles avenues que le numérique offre au milieu de l'enseignement. impossible de rester indifférent, surtout à Montréal, depuis, je dirais, les deux dernières années, à la place de l'intelligence artificielle, entre autres en éducation. Elle est présente, l'IA, actuellement, par le truchement des applications sur les téléphones intelligents ou celui des moteurs de recherche que les apprenants et que les formateurs utilisent de façon quasi quotidienne. Alors, il y a une liste des principaux points positifs qui a été colligée par M. Carcenti, je crois, entre autres, sur l'arrivée, justement, de l'intelligence artificielle en éducation, et il a constaté que ce serait en formation à distance qu'on pouvait en tirer profit. On table, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, sur la mobilité des apprenants qui accèdent au contenu à l'aide des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Ces fréquentations à Internet pour la formation correspondent à peu près à 90 % déconnexion à l'Internet. Donc, c'est assez courant. Plusieurs chercheurs affirment donc que l'apprentissage mobile, qu'on appelle en anglais ou en chinois, comme disait un animateur qu'on aimait beaucoup, mobile learning, est une forme de formation à distance et c'est donc une avenue très importante. Alors, dans le cadre du projet UFTIFEN, qui est l'usage des technologies de l'information pour la formation des enseignants au Niger, a été réalisé en Afrique auprès de plus de 20 000 enseignants. Alors, c'est M. Carcenti et son équipe de recherche qui ont conçu une plateforme de formation à distance pour téléphone intelligent qui a donc recours à l'intelligence artificielle. Et ils considèrent que le potentiel de cette plateforme pourrait être intéressante pour les étudiants, d'autres étudiants de niveau universitaire, mais voir aussi les élèves peut-être du niveau secondaire et pourquoi pas des cégeps. Cette plateforme fait appel à l'apprentissage adaptif ou automatique qui est rendu possible par l'intelligence artificielle. C'est là les points positifs. Ça permet entre autres d'adapter facilement et de façon dynamique et évolutive, donc c'est en continu, les parcours d'apprentissage en regard des besoins et des caractéristiques des apprenants et pratiquement de chacun. Donc le système peut non seulement varier le contenu sur le plan de la difficulté, mais aussi ajouter ou retirer des éléments. C'est à partir donc des réponses fournies par chaque apprenant et aussi de l'ensemble des apprenants. La plateforme ne considère donc pas uniquement les réponses d'une personne pour apprendre et s'adapter. Elle considère les réponses de l'ensemble. Avec donc ces 20 000 apprenants, le projet a généré plus de 20 millions de données ou d'actions qui sont utilisés par la plateforme UTIFEN pour créer des modèles pour mieux comprendre le parcours des apprenants qui réussissent et celui des apprenants qui ne réussissent pas. Alors, plusieurs experts disent que c'est dangereux l'IA, mais il faut poser des limites en fait aux machines intelligentes et à leur usage. Et pour poser des limites, il faut bien comprendre ce dont il est question. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut, à travers l'intelligence, bien cerner les transformations éducatives qu'elle pourrait alimenter. Alors, c'était vraiment un texte de Thierry Carcenti pour le journal Forum U2M Nouvelles, et c'était du 29 novembre 2018. Donc,
N'ayons pas peur, mais soyons vigilants. C'est ça l'idée.
Oui, c'est ça.
Mais c'est bien. Alors, c'est bientôt les vacances. On va vouloir aller faire des activités avec les enfants. Je vous en propose 7 qu'on peut faire à Montréal dans le temps des fêtes. C'est Mallory Bédard qui a écrit ce texte et qui l'a publié sur le site du magazine VIFA pour Vie de famille le 3 décembre dernier. Reconnue comme une ville très énergétique, énergique, Montréal vous propose 7 activités qui accrocheront des sourires au visage de tous les membres de la famille.
La première activité suggérée, c'est Montréal en fête. Ça commence aujourd'hui, ça se termine le 31 décembre, et on peut aller faire un tour dans le Vieux-Montréal, vivre la frénésie du temps des fêtes, à l'horaire, activités familiales, performances musicales, feux d'artifice, et plus encore, et c'est complètement gratuit, c'est pas à négliger. Deuxième suggestion, le festival Noël dans le parc. Alors, si vous avez envie de vivre une expérience traditionnelle de Noël, ce festival Noël dans le parc vous enveloppera dans une ambiance chaleureuse, conviviale des Noëls d'autrefois et présente aux participants une programmation musicale variée. En plus, cet événement hivernal vous offre de faire l'achat de sapins naturels et biologiques en vous grillant une petite guimauve sur le feu au passage. De quoi passer une journée agréable avec toute la famille. Ça se passe, donc ça se déroule tout le mois de décembre sur trois sites. Il y a deux parcs du plateau Mont-Royal, le parc des Compagnons de Saint-Laurent et le parc La Haye, et à la place Émilie-Gamelin. Troisième suggestion, le village de Noël. Et ça, c'est dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On organise des activités de Noël du 30 novembre au 23 décembre et c'est dans le secteur du marché Atwater. Spectacle, chorale, atelier de création, jeux, maquillage pour les enfants, films en plein air et soirée gourmande. On peut aussi aller au château Ramsay pour participer aux activités spéciales du temps des fêtes. On renoue là avec les traditions d'autrefois. Il y a trois activités qui sont offertes aux familles. La première, c'est autour du foyer, tradition du temps des fêtes, où on expose des manteaux de cheminée richement décorés. L'activité qui s'appelle « Accroche ton bas », où on peut accrocher son propre bas au manteau de la cheminée. Et l'atelier de boulangerie, où on peut façonner un pain à la mode de la Nouvelle-France. Cinquième suggestion, casse-noisette. Alors ça, c'est un classique. Ça nous ramène chaque période du temps des fêtes, la jeune Clara et le célèbre classique casse-noisette, un conte d'hiver dont la magie ravit les petits et les grands pour une 55e année à Montréal. Du 13 au 30 décembre, et le spectacle est accompagné par l'Orchestre des Grands Ballets qui regroupe 70 musiciens et solistes de haut niveau. On pourrait aussi aller patiner à l'extérieur et à l'intérieur.
Excellente idée.
Alors, c'est pour les fanatiques de sport d'hiver. Montréal compte plus de 260 patinoires et ronds de glace. Ça, c'est quand il fait assez froid. Là. Hein? Bon. Les plus connus sont entre autres la patinoire du lac au Castor, la patinoire du parc La Fontaine, qui est située sur le plateau. Au Vieux-Port, la patinoire Natrel, qui est un rond de glace réfrigéré qui accueille les patineurs dans un décor féerique, vraiment, et une ambiance musicale. Et pour ceux qui n'aiment pas mettre le nez dehors ou avoir le bout du nez gelé, la patinoire intérieure de l'Atrium Le Mille au centre-ville vous conviendra parfaitement. La dernière suggestion, c'est qui est le vrai Père Noël? Et ça, c'est du 15 au 31 décembre, où on peut partir à la rencontre des Pères Noël du monde, en compagnie de guides animateurs au musée Pointe-à-Calière. Petits et grands sont conviés à venir rencontrer Melchior, Pierre Lenoir, Babouchka et le Père Noël. C'est une activité familiale qu'on a déjà faite il y a fort longtemps, ça, mais c'est vraiment toujours bien, c'est enrichissant et c'est amusant. Et sur le même site, je vais vous donner l'adresse, on peut trouver 7 activités à faire dans le temps des fêtes dans la région de Québec. Mm-hmm. Alors voilà, je vous donne l'adresse, c'est vifamagazine.ca, puis vous allez trouver les deux textes. Celui-ci était de Mallory Bédard. Merci beaucoup.
Casa velha onde ninguém morava. Era uma rua onde ninguém passava. Tinha uma porta que ninguém abria, uma janela em que ninguém jamais se debruçava.
Era uma cidade ceniça que ela rodeava, que num cenizo vai se encontrar. E no arroyo que já não corria havia um barco encallado e um letrero que dizia:
aqui morreram e foram enterrados
a poesia e o sonho de quem veio nesse mundo pra viver resignado.
Aqui murieron e lo que se quedó, impenitente, indomable,
a flor, foi a flor. Ai, foi a flor, foi a flor, foi a flor.
Que la rodeaba, que en un cenizo valle se encontraba, y en el arroyo que ya no corría había un barco encallado y un letrero que decía:
aquí murieron y fueron enterrados
a poesía, el sueño de quien veio en ese mundo para vivir resignado.
Aquí murieron y lo que se quedó.
Foi a flor, foi a flor, mas foi a flor, foi a flor, foi a flor, foi a flor, foi a flor.
Et Mlle Ruiz Flor.
Merci, Maurice. Alors, les édulcorants.
Oui, les édulcorants.
Est-ce qu'on aime ça ou est-ce qu'on n'aime pas ça?
Ben, on aime beaucoup ça. On aime trop ça.
On aime trop ça?
Oui, je pense que oui. Ouais. Alors.
C'est... Là, je suis dans le cirage. Là. Pourquoi qu'on aime ça et qu'on n'aime pas ça? Je ne sais pas.
Ben.
Oh, je vais vous raconter.
Oui, ça. Ouais, ouais.
Ça.
Écoutons.
Okay. Allons-y. Oui.
Alors, c'est un article de Sylvie Boisfard pour la revue Science et Avenir de septembre 2018. Alors, pour nommer quelques édulcorants, aspartame, xylitol, sucralose, c'en est quelques-uns.
Okay.
Ils ont été mis au point il y a plus de 30 ans par des industriels pour le plaisir du goût sucré,
sans les
calories, en fait. Sans les calories.
Okay.
Ça, c'est un élément important. Oui. Le dernier-né s'appelle, le presque dernier-né, en fait, la stevia.
Oui.
Et on nous dit, c'est naturel.
C'est miraculeux, là.
C'est miraculeux, c'est naturel, ça vient d'Amérique du Sud. Il y en a, Coca-Cola et Pepsi ont joué là-dessus pour annoncer leur nouveau soda vert. Alors, il y a Coca-Cola Life et Pepsi True, vrai. Mais la stevia, elle pourrait être détrônée prochainement par une autre substance qui s'appelle le monk fruit. Le fruit du moine qui vient du sud de la Chine. Il est déjà commercialisé aux États-Unis, semble-t-il. Les édulcorants se retrouvent dans plus de 6000 produits. Les gommes, les biscuits et bien sûr dans les sodas, mais parfois dans les yogourts aussi. On pense qu'on mange bien, mais dans le yogourt, il y a de l'édulcorant. Ils ont d'abord été conçus pour les diabétiques. Puis, ça s'est présenté comme une très bonne solution pour les personnes, pour diminuer la consommation de sucre raffiné et pour les personnes qui pensaient perdre du poids. C'est une des choses. Mais il n'y a aucun bénéfice pour la perte de poids, le contrôle et la perte de poids. Au contraire, ça peut faire prendre du poids.
Vraiment?
Oui. Ah oui, énormément. Oui. Parce qu'ils ont un pouvoir sucrant démultiplié. Vous allez être jeté à terre. La stevia a un pouvoir sucrant de 50 à 300 300 fois supérieur au sucre blanc. Le néotam, que je ne connais pas, 7000 à 13000 fois supérieur pour zéro calorie. Alors, imaginez le message que ça donne à votre cerveau. D'abord, je vous répète, la stevia, elle est plus transformée qu'on le pense. C'est beaucoup plus chimique qu'on le croit. Donc, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs pour nous dire que plus de surpoids, même chez les enfants dans le ventre de leur maman, encore dans le ventre de leur maman, mais les mamans consomment des édulcorants, eh bien, 57% peuvent être en surpoids à la naissance et 93% souffrir d'obésité dès l'âge de 7 ans. On a évalué 66 000 femmes qui consommaient des boissons lettes et elles avaient plus de risques de diabète, de souffrir de diabète que les autres personnes qui ne buvaient pas du lait.
Donc là, on n'est pas avancé du tout.
Oui, on n'est pas du tout avancé. Alors, ce qui se passe, c'est que notre cerveau est trompé. Il y a un message à l'hypothalamus qui dit « Tu n'as pas de calories dans ton système. Mange, mange! » Alors, au lieu de diminuer la consommation des autres aliments, on augmente. Donc, on souffre éventuellement d'obésité. Et l'aspartame pourrait être cancérogène. Donc, je vous inviterai à éviter de boire les sodas.
Ben oui, mangez donc des fruits.
Mangez donc des fruits. Oui. Éviter surtout les sodas avec donc des édulcorants. Le titre de l'article était « Les édulcorants pas si anodins » et c'était rédigé par Sylvie Boisfard pour la revue Science et Avenir de septembre 2018.
Il va être triste, il va être très, très triste.
Ben je sais, je le déçois souvent. C'est la vie.
Oui,
c'est
la semaine dernière, c'était le muffin.
Accepte, Yvan.
Ben, qu'est-ce que tu veux?
Voilà, Yvan, on termine avec toi avec le texte de Gérard Bouchard.
Oui, on termine l'année, hein?
Ben
c'est
oui,
vrai? Le dernier. Alors, c'était dans la section débat dans la presse du 14 décembre, je pense que c'est samedi ou dimanche, je ne me souviens plus.
Dimanche.
Sous la plume de Gérard Bouchard, qui nous raconte une belle histoire malgré tout. Et ça commence dans son gymnase. Il est en train de faire de l'exercice et à côté de lui, il y a une personne avec une prothèse qui essaie de s'installer sur le vélo stationnaire. Il a beaucoup de difficultés. Et là, Gérard Bouchard lui parle et il nous raconte son histoire à ce monsieur. Ça commence le 16 août 2016, à 7 heures du matin. Il monte sur son vélo comme tous les matins pour sa sortie de 125 km. Il a 60 ans, c'est un athlète. Il a informé Hélène, sa conjointe, du parcours qu'il va suivre. Une heure plus tard, il roule sur un chemin peu fréquenté le long du Saguenay. Il vient d'escalader une montée. Subitement, il se sent mal. Il est pris d'un étourdissement. Il perd connaissance et tombe sur le côté de la route. Vers 13 heures, à la maison, Hélène constate son retard, mais ne s'inquiète pas. Il arrive à Mario d'allonger ses sorties. Plus tard, en après-midi, il n'est toujours pas rentré. Elle s'alarme et prévient les policiers. Mais suivant leur protocole, ils ne pourront intervenir avant le lendemain. Elle contacte ses enfants qui vivent hors de la région. Elle leur transmet une carte indiquant le parcours suivi par leur père. Ils saisissent les réseaux sociaux. Une immense battue se met en branle, des amis de Mario et de nombreux cyclistes qui répondent à l'appel. Quand il reprend conscience après sa chute, Mario est allongé sur le dos dans un fossé à travers des branches qui le dissimulent.
Oh.
Il souffre horriblement d'un pied tordu entre deux roches et du dos qui repose sur une partie de son vélo. Il est incapable de bouger, même de tourner la tête, et plus tard, il apprendra qu'il a été victime d'un grave AVC. S'il avait un téléphone cellulaire, il essaierait d'appeler du secours, mais il n'en a pas. Après un long moment, une voiture passe, puis d'autres. Il les entend, mais les conducteurs ne le voient pas. Il entend des vélos aussi. Il est incapable de crier. Il passe toute la journée ainsi dans les douleurs, cloué sur le dos. Mais à l'aide d'une main qui a conservé un peu de mobilité, il a multiplié les efforts depuis le matin pour redresser son vélo et se signaler à la vue des passants. Avant la fin du jour, il y parvient enfin. Mais la route reste déserte et après une heure, le vélo retombe sur lui. Le soir tombe, il désespère, il abandonne. Pendant des heures, des orages se succèdent, ponctués d'éclairs. Il craint la foudre, croit qu'il va mourir. Il pense à Hélène, à ses enfants. Et pour la première fois depuis son enfance, il pleure. Mais avec le jour qui se lève, l'espoir revient. Il s'attaque encore à son vélo qui le fait toujours souffrir. Longtemps encore, il tente de le relever, puis il y parvient. Bientôt, une voiture s'arrête et un peu plus tard, une ambulance. Il demeure 15 jours aux soins intensifs, puis il est confié à un institut de réadaptation. En dehors des périodes de traitement, il est confiné à un lit ou à un fauteuil roulant. Mais il s'est juré qu'il sortirait de là debout et qu'il remonterait sur un vélo. Après 6 mois, les thérapeutes sont d'un autre avis. Mario a progressé, mais il pense qu'il n'ira pas plus loin. Et le personnel est débordé. On le renvoie chez lui. Alors son vrai combat commence. Après 2 ans, il est en voie de le gagner. Aujourd'hui, il porte toujours une orthèse, mais il marche. Il roule sur un 3 roues. Il conduit sa voiture, il déneige la galerie de sa maison et il fréquente toujours le gymnase qui s'appelle le Mégaforme. Je l'ai visité cette semaine, on parle de Gérard Bouchard. Nous avons jasé. Hélène était là. Elle m'a parlé du cadeau qu'elle va lui offrir à Noël, un cellulaire. J'abrège. Il y a eu les doutes, les découragements, les rechutes, les reprises, les petites victoires et les grandes. Exemple, la première fois qu'il a pu se tenir debout à l'hôpital grâce aux soins d'une infirmière sur laquelle il ne tarit pas d'éloges. Et surtout, le soutien constant des proches, des amis. Il a beaucoup insisté pour que je le mentionne en grosses lettres. PS, la dernière parole d'Hélène quand je suis reparti, « L'important, c'est pas ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on regagne. »
Oh, c'est beau.
Alors, ouais, je vous laisse avec touchant. Ce texte qui s'appelle « Une belle histoire, malgré tout », sous la plume de Gérard Bouchard, dans la section « Débat » de la presse du 14 décembre.
Merci.
D'une pièce de Maryse Le Tartre au bal des neiges.
Oui, c'est beau ça, Maryse Le Tartre. Hein? C'est sa formation, Les Harmonies avec des orchestres à vent. Oui. Alors, moi, je vous parle d'une expérience que vous pouvez faire sur la télévision durant le temps des fêtes. Est-ce que vous connaissez Lotus et Cali? Alors, Lotus et Cali, c'est 2 personnages, une petite fille et un petit panda roux qui est tellement cute. Et ça permet de transmettre l'amour de la lecture, des mots et de l'écriture. Donc, il propose, Lotus et Cali, des courtes vidéos en lien avec l'apprentissage de la lecture, des jeux de lettres, de mots. Il y a 3 épisodes qui sont disponibles en ligne maintenant. Il y a des capsules où le petit panda roux explique à sa façon des mots, des expressions, comme plonger dans un roman, par exemple. Et on propose aussi sur cette chaîne des jeux de lettres, de mots, des charades, des rébus, des rimes, des expressions, des virelangues. Alors, le lien, c'est squat, S-Q-U-A-T, .téléquébec.tv, Lotus et Cali. Alors, je vous souhaite ce plaisir-là durant
le temps. Et le panda, c'est qui? C'est Lotus ou Cali?
C'est Cali, le petit panda roux.
D'accord.
Oui. Et Monique?
Oui, alors on parlait de chiens tout à l'heure.
Oui.
Hein, ben, la ruse des petits chiens pour paraître plus grand. Plus un chien est petit, plus il lève la patte lorsqu'il urine pour laisser une marque le plus haut possible.
Oh,
et ça, c'est une découverte faite par des biologistes de l'université de Cornell, pas n'importe quel, en filmant plusieurs petits chiens. Et ça semble indiquer qu'ils cherchent à tricher sur leur taille et ainsi impressionner leurs congénères qui viendront renifler la marque.
Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière?
Une très petite dernière. Le chiffre, c'est 19 481, c'est le chiffre de la semaine dernière. Ça, c'est le nombre de chiens qui ont visité les parcs de la CEPAC de 2016 à 2018 dans le cadre d'un projet pilote. Les chiens seront acceptés dans certains secteurs de la plupart des parcs dès le printemps prochain.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Merci Maurice, merci Yvan, merci Monique.
Oui.
Hélène Denis vous retrouve après la pause. Et nous, on vous revient le 10 janvier prochain. Bonne fin de journée.
Joyeuses fêtes.
Au revoir.